Bonsoir, une dizaine de personnes sont mortes et d'autres blessées en l'espace de 3 mois à la suite d'engins explosifs de guerre abandonnés lors des combats entre le M23 et les FRDC dans les territoires de Niragongo, Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu. L'ONG Synergie de lutte anti-mine SILAM a livré ses statistiques hier mardi à Goma lors de la journée internationale de sensibilisation contre les mines. Selon le coordinateur national de la SILAM, Marion Gavo, un appui dans l'action de lutte anti-mine en RDC s'avère indispensable en cette période où la partie Est fait face à la guerre. Selon lui, la RDC compte une trentaine de sites affectés par des mines, dont 7 au Nord Kivu. Ces engins explosifs continuent de faire des victimes, a indiqué Marion Gavo. Pour sa part, Jean-Denis Larsen, chef de service de l'agence onusienne en charge du déminage UNMAS en RDC, a annoncé toujours mardi à Kinshasa le lancement d'un nouveau projet de déminage humanitaire. Le projet consiste à dépolluer les zones affectées par les restes des explosifs de guerre des mines antipersonnelles dans la zone d'intervention de la mission. Il s'agit de la province de l'Ituri, le nord et le sud Kivu. Quelle lecture faire de la problématique de lutte contre les mines antipersonnelles en République démocratique du Congo, mais aussi de ce nouveau projet anti-mine de UNMAS? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Marion Gavo Kambale, coordonnateur national de la synergie de lutte anti-mine et bombe SILAM Asbel, basé à Goma, au nord Kivu. Marion Gavo, bonsoir.
Bonsoir Donna, bonsoir à toute la population de l'RDC, surtout dans les zones qui ne sont pas les plus armées.
Merci également dans ce débat, Soudi Kimputu Alimasi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en désarmement et sécurité internationale, également expert en lutte contre les mines antipersonnelles et les restes d'explosifs de guerre. Et enfin, toujours dans le débat, Peter Bokanga, chef de projet de l'ONG Bureau des Actions de Développement et Urgence, Badou en sigle, basé à Bukavu, au sud Kivu. Peter Bokanga, bonsoir.
Bonsoir, merci. Bonsoir.
Dona Madimba, pour la présentation de cette émission ce soir. À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Une dizaine de personnes sont mortes et d'autres blessées en l'espace de 3 mois à la suite d'engins explosifs de guerre abandonnés lors des combats entre le M23 et le FRDC dans les territoires de Niragongo, Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu. L'ONG Synergie de lutte anti-mine SILAM en sigle a livré ses stratégies mardi à Goma lors de la journée internationale de sensibilisation contre les mines. Selon le coordonnateur national de la SILAM, Marion Gavo, un appui dans l'action de lutte anti-mine en RDC s'avère indispensable en cette période où la partie Est fait face à la guerre. Plus d'informations avec Vanessa Nkongolo.
Au cours de cette cérémonie, 40 jeunes ont obtenu leur diplôme sur l'éducation et risques de mines et enquête non technique après une formation. Herman Tumpa est l'un des 40 jeunes diplômés. Il a pris l'engagement de sauver des vies.
Le mine antipersonnel et les restes explosifs constituent une menace des vies humaines. C'est ce qui justifie notre engagement.
Emmanuel Lokinou, coordonnateur national du Centre congolais de lutte anti-mine, donne ici l'état des lieux de mines en RDC.
La République démocratique du Congo compte 33 zones minées par une surface de 370 569,13 m², qui sont répartis en 9 provinces. Nous comptons aussi 136 zones contaminées par le reste explosif de guerre. Nous comptons 3136 victimes déjà identifiées.
Dans ses efforts de trouver une solution à ces problèmes, UNMAS dit avoir lancé un projet. Jean-Denis Larsen, chef de service, explique.
Il s'agit d'un projet de déminage humanitaire. C'est un projet qui, d'une part, consiste en dépolluer des zones affectées par des restes explosifs de guerre, des mines antipersonnelles, dans la zone d'intervention de la mission. Donc, il s'agit de la province d'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu.
Marion Gavo Kambale, coordonnateur national de la synergie de lutte anti-mine et bombe SILAM Asbel, en sigle basé à Goma dans la province du Nord Kivu. Les mines et engins explosifs, on en parlait beaucoup il y a quelques années, on en parle un peu moins désormais depuis un moment. Vous évoquez ici, vous et les autres acteurs entendus dans le reportage, une trentaine de sites affectés par les mines pour 9 provinces, mais on met beaucoup plus l'accent sur 3 provinces. Pourquoi? Et pour le reste des zones affectées, c'est quelles provinces qui sont concernées et qu'est-ce qui explique la présence de ces foyers de mines dans ces provinces-là?
Oui, Donna, d'abord, le 37 zones étaient identifiées lors d'une enquête nationale sur les mines il y a 10 ans. Au fur et à mesure qu'on évolue avec le travail, il reste aujourd'hui 33, donc... Les zones sont, au fur et à mesure qu'on est en train de traiter, on trouve d'autres. Et c'était plus dans l'Ituri, le Nord Kivu, le Kasaï, le Maniema, le Nord Ubangi, le Tanganyika, le Kasaï central et la Tuapa. Mais actuellement, la pollution s'avère plus grande seulement dans l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et une partie de Tanganyika. C'est lié aux guerres des... à répétition qui se passe actuellement dans l'est de la RDC, mais aussi certaines mines sont liées de ça aux guerres qui ont des répétitions et dont les experts et les mercenaires sont venus pour appuyer le gouvernement de la Première République. Et donc, ce qui explique donc la montée de la pollution actuellement, ce sont les guerres avec les rebelles, avec les terroristes ADEF, les terroristes du M23, ce qui explique ça. En effet, le traité d'Ottawa avait été signé et ratifié par la RDC en 1997 et l'a interdit la fabrication des mines terrestres antipersonnelles, sa commercialisation, le transfert, le transport, mais aussi l'utilisation dans les conflits. Également, la RDC a signé la convention sur l'interdiction des bombes à sous-munitions en 2008. À côté de ça, quand il y a des munitions préparées pour être utilisées, les standards moyens disent qu'autour de 20% restent soit abandonnés et soit tirés mais qui n'ont pas explosé. Et à côté des mines antipersonnelles ou des mines anti-charges, nous avons ce que nous appelons les restes explosifs de guerre, qui est l'ensemble des mortiers, des roquettes, des grenades, des cartouches, des bombes, qui sont utilisées par les groupes armés, par les rebelles, et qui sont soit oubliés dans les écoles, sous les champs de bataille, et ça constitue une traumatique. Ça se signifie aussi par le transport par les civils. Si on donne à un civil de transporter le matériel dans les montagnes, il a 35 kilos, quand il est fatigué, il prend une munition, il jette, ça reste un danger pour la population. À côté de ça, nous avons les armes légères de petit calibre, et actuellement, les terroristes utilisent ce que nous appelons les engins explosifs improvisés, qui sont improvisés, qui sont des bombes artisanales montées souvent sur les lieux de crime avant d'être piégées. Et ça se vérifie dans Beni Ville et dans Beni Territoire. Donc, parlant de pourquoi il y a ces zones-là, c'est parce qu'il y a des guerres à répétition. Aujourd'hui, on compte 136 zones avec les restes explosifs de guerre. Et pour une surface estimatif de 23 500 mètres. Et donc, c'est un danger pour la population, c'est un danger dans les zones à conflit. Les populations qui ont fui leur village, leur territoire, quand ils vont rentrer, ils ont besoin de sensibilisation, ils ont besoin de connaître la différence entre les objets que nous utilisons, les mines et les restes explosifs de guerre pour éviter les cas d'accident.
Alors, Marion Gaveau, les engins explosifs, nous ne doutons pas un seul instant que c'est dangereux potentiellement, mais ceux qui sont répertoriés par vos statistiques, en quoi ces engins explosifs présentent particulièrement un danger et à quel moment exactement peuvent-ils être un danger?
Voilà. Ces engins présentent un danger parce que d'abord, les mines comme les raids ressemblent aux objets que nous utilisons couramment. Ils ont souvent les couleurs et les formes attrayantes et parfois vertes et gris pour faciliter son camouflage. À l'explosion, par exemple, par toucher, par pression, par manipulation ou par attraction du fil ciel, ils explosent.
Mais si certains ont fait tellement autant d'années et on n'a pas entendu parler de ces explosions, hein, je vous pose la question, loin de nous l'intention de minimiser du tout, c'est aussi une émission pédagogique. Puisque ces objets explosifs sont restés tant d'années sans exploser et sans présenter jusqu'ici un danger véhiculé, pourquoi ça reste toujours un danger qui peut arriver un jour ou c'est juste des estimations qui peuvent se retrouver sans aucun danger en définitive les années après?
Monsieur le journaliste, la mine, la bombe, même après autant d'années, vous les trouvez rouillées, elles ne meurent jamais. Elles sont nées quand on les manque, elles meurent quand on les désactive ou quand ils explosent. C'est pourquoi et avec les guerres à répétition, on en trouve toujours, et pour votre information, ce mois de cette année 2023, les trois mois, on a enregistré 5 accidents dans Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, et là nous avons perdu 12 personnes et beaucoup de blessés. Et donc ces mines restent dans les villages où il y a eu des combats, sur les sentiers, et même dans les forêts où ont servi de passage des militaires. Aussi, la présence des engins explosifs réduit l'espace de vie et l'espace de travail, même la scolarité, l'agriculture, etc. C'est pourquoi nous insistons toujours ici, dans les zones post-conflit, si vous voyez les engins semblables aux effets militaires, il ne faut pas les toucher, ni jeter rien, même.
Marion Gavo, coordonnateur national de la synergie des luttes anti-mines et bombes Silam en sigle basé à Goma au Nord Kivu, que nous allons tenter de récupérer dans ce débat. Soudi Kimputu Alimasi, expert en désarmement et sécurité internationale, également expert en lutte contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. Avec le tableau présenté par Marion Gavo, on voit très bien que le danger existe et n'est pas à négliger à aucun moment. J'imagine que vous allez nous confirmer que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui explique que la communication sur les mines, sur la dangerosité des engins explosifs, qui était importante hein, à RDC à un moment donné, affaiblie, voire a presque un peu disparu? C'est peut-être à des occasions commémoratives comme la journée mondiale anti-mines et les projets exposés par les Nations Unies que peut-être on en reparle aujourd'hui.
Merci beaucoup. D'abord, je salue Marion et Peter. La journée du 4 avril de chaque année qui a été consacrée par les Nations Unies comme journée internationale de sensibilisation est une occasion pour sensibiliser l'ensemble de la population, informer la population dans les milieux affectés sur la dangerosité de ces engins qui sont posés dans les territoires nationaux à la suite des conflits armés. Et à cette occasion, il est quand même important de rappeler à l'ensemble de la communauté nationale et ceux des étrangers qui vivent en République démocratique du Congo que la lutte anti-mine, c'est un processus humanitaire et qui relève du droit international humanitaire. Ce processus relève aussi du désarmement de la sécurité internationale, qui est un mécanisme comme les autres, la lutte contre les nucléaires, les armes chimiques, ainsi de suite. Et c'est sur ces schémas que s'inscrit la lutte anti-mine aussi. Mais la lutte anti-mine est régie par plusieurs instruments juridiques internationaux. La convention mère, c'est la convention sur les mines antipersonnelles, la convention d'Ottawa, qui a été ratifiée par la République démocratique du Congo le 2 mai 2002, et elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2002. C'est aussi la Convention sur les armes à sous-munitions qui a été ratifiée en 2009, mais qui n'est pas encore ratifiée. C'est aussi la Convention sur certaines armes classiques avec ces deux protocoles additionnels principaux qui régissent la lutte anti-mine, notamment le protocole 2 amendé sur les mines pièges et le protocole 5, c'est ce qu'on appelle les restes explosifs de guerre. Alors, tous ces éléments concourent à ce que la lutte anti-mine en République démocratique du Congo soit organisée de manière systématique pour coordonner l'ensemble du processus depuis cette ratification jusqu'à aujourd'hui. Alors, en termes de quelques statistiques, aujourd'hui, il y a certainement 33 zones restantes dont la superficie à nettoyer. Ici, il faut faire la différence. Il y a la problématique des mines, ce qu'on appelle les mines antipersonnelles. Quand on parle des 33 zones restantes avec à peu près 380 à 400 000 mètres carrés à déminer qui restent, ça concerne uniquement les mines antipersonnelles dont l'enquête a été effectuée en 2014. Mais il y a à côté ce qu'on appelle les restes explosifs de guerre. Dans la foulée, il y a les armes à sous-munitions, mais il y a aussi un phénomène nouveau. Nous allons en développer un peu plus tard pour et sa dangerosité sur notre territoire national, ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Alors, aujourd'hui, avec la problématique des mines antipersonnelles, la province la plus contaminée, c'est le Kasaï central. Le Kasaï central qui a 4 zones sur à peu près 380 000 mètres carrés à déminer qui restent. Seul le Kasaï central a 283 686 mètres carrés à déminer. Et dans les territoires de Demba. Maintenant, suivi du territoire de la province du Nord Ubangi, il y a aussi 4 zones avec 35 000. Suivi de Tanganyika, puis Norubangi. Tanganyika 36 000, Norubangi 35 000. Et on descend, Kasaï, puis le Nord Kivu avec 12 000.
Selon les explications Sudi Kimputu, les provinces que vous citez, en premier surtout, sauf si je vous ai pas bien compris et vous préciserez, moins mis en avant que les deux Kivu et l'Ituri, alors que vous vous les mettez en tête des dangerosités. Comment expliquer cela? Et surtout, à travers vos statistiques, vous confirmez justement qu'il y a urgence et la dangerosité existe. Pourquoi cette dangerosité est moins véhiculée dans l'opinion et moins prise en charge apparemment?
Oui, effectivement, parce que la lutte anti-mine, elle coûte très cher. Et elle est faiblement financée par notre pays. Donc, la coordination et les travaux sur le terrain ne se font qu'avec l'argent qui est donné par les partenaires au développement et les bailleurs de fonds. Et la plupart des moyens passent par les Nations Unies qui, eux, sont centrés dans la partie Est. Voilà pourquoi tout ce qui se fait de manière visible et de manière régulière, qui passe par ces financements, il passe par des zones à occupation aujourd'hui de la MONUSCO. Alors, les provinces comme les Kasaï et Tanganyika, c'était hier, mais aujourd'hui, comme la MONUSCO a quitté Tanganyika, donc vous allez voir que même le financement mobilisé depuis 2015 avec la COICA, donc le Coréen, qui est sous coordination aujourd'hui, ce financement est sous coordination du MAS, ça ne peut s'appliquer que dans les provinces où la MONUSCO est opérationnelle. Donc, les Kasaï central avec toute cette superficie, vous allez voir que dans la suite des projets qui vont se passer, ne sera pas bénéficiaire de ces financements, alors que c'est la plus grande contamination, je précise, en mines antipersonnelles. Parce qu'il y a la contamination à reste exclusif de guerre, les 136 zones évoquées, c'est à titre indicatif, qui sont des rapports, des éléments qui sont rapportés à l'issue des travaux effectués sur les questions des autres espaces qui font l'objet du déminage. Mais le pays devra, en principe, faire une évaluation générale de la contamination par reste excessif de guerre. C'est la plus grande contamination qui reste dans notre pays parce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui beaucoup, beaucoup de victimes. Mmh. Et j'aimerais préciser la question des engins explosifs improvisés. C'est une nouvelle forme de contamination qui a été introduite par les terroristes des ADF-MTN, qui est une contamination vraiment complexe. Et cette contamination accroît le nombre de victimes dans les territoires de Beni, de Nyiragongo, de Rutshuru, de Matissi et même à Goma. Et même à Goma, il y a des victimes des engins explosifs improvisés. Et cette nouvelle forme de contamination qui est très très complexe et qui se fait de manière très très asymétrique, on ne sait pas quand est-ce qu'on le pose, ainsi de suite. C'est une nouvelle forme de contamination qui a modifié les rythmes même de la lutte dans notre pays.
Vous l'avez dit, Sudi Kimputu, nous reviendrons sur justement les pistes de solution à toute cette problématique tout à l'heure, avant que notre émission ne se clôture définitivement. Peter Bokanga, chef de projet de l'ONG Bureau des Actions de Développement et des Urgences basé à Bukavu dans la province du Sud Kivu, avec la description faite aussi bien par Marion Gaveau que Sudi Kimputu, on voit très bien que la dangerosité de la problématique des mines en République démocratique du Congo est une réalité inquiétante. Et est-ce que ce n'est pas aussi une tragédie, vu que la dangerosité est importante, les moyens pour la combattre faibles ou inexistants? Et est-ce que ce n'est pas aussi un peu une faillite de votre métier d'expert en déminage?
Oui, nous avons enregistré plusieurs cas d'accidents au sein de notre province du Sud Kivu. Nous pouvons dire au mois de janvier jusqu'au mois de mars, on a enregistré plus de 2 cas d'accidents, dont 3 enfants ont été morts dans la plaine de la Ruzizi et 5 blessés. C'était au mois de janvier. Dans le village Ndunda, groupement Kabunambo. Mais aussi, on a enregistré aussi un accident de 3 enfants. De 3 enfants le 19 mars, toujours dans le territoire d'Uvira. 3 enfants ont été tués et 4 blessés. Et à part ça, dans la ville de Bukavu, quartier Nyamugo, en pleine ville, s'il vous plaît, on a enregistré un cas d'un enfant qui a manipulé un engin explosif. Il a été mort sur les champs, mais aussi il y a son père biologique qui a été amputé par cette même engin. Pour dire quoi? La lutte antimine est réelle. Donc, nous pouvons dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une intense sensibilisation auprès de la population. Cela est dit à de multiples guerres à répétition en République démocratique du Congo, mais aussi nous avons des groupes armés locaux et étrangers. Tout cela, c'est ce qui est à la base des enjeux explosifs en République démocratique du Congo.
Merci à vous, Peter Bokanga, chef de projet de l'ONG Bureau des Actions de Développement et des Urgences Badou, en sigle basé à Bukavu, dans le Sud Kivu. Marion Gaveau Kambale, coordonnateur national de la synergie des luttes anti-mines et bombes SILAM, ASBL, en sigle basé à Goma, province du Nord Kivu. Notre émission laisse aussi la parole aux auditeurs, au public, qui peuvent donner leur avis sur la thématique du jour. Pour vous, cher Marion, nous allons écouter le commentaire de cet auditeur de Kabinda.
Oui, c'est Christian Kabila Tangonde, depuis Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Pour moi, c'est une grande initiative organisée par l'ONG SILAM, notamment pour l'antimine. Ce projet est salutaire car il lutte contre les explosions qui génèrent des morts de nos paisibles populations résidant dans les coins où étaient organisés les champs de bataille. Le gouvernement de la RDC doit normalement appuyer cette ONG en matériel nécessaire pouvant remédier au déminage de ces explosifs pour sauver les vies humaines. La population de l'est du pays est beaucoup vidée suite aux attaques des rebelles et elle ne peut plus davantage se vider grâce aux explosifs. Je vous remercie.
Marion Gaveau, vous allez réagir à cet auditeur, mais une autre question, c'est comment au quotidien et avec quels moyens vous menez vos actions pour participer à la lutte anti-mine. Et puisqu'un nouveau projet de l'ONU à travers UNMAS est annoncé, est-ce que vous y êtes associé et à quelle hauteur à peu près?
Merci beaucoup, Donna. Je remercie Christian Bellomani parce qu'il connaît très la problématique. En effet, la lutte anti-mine est sous-financée. Et presque pas financé comme dans les autres secteurs, comme le wash, comme les abris, alors que c'est un secteur vraiment très sensible. Et par rapport à comment nous le faisons, dans le cadre d'abord de la sensibilisation, nous passons des messages radiodiffusés pour accéder à toutes les couches et dans différentes langues véhiculaires de milieux qui sont pollués. Nous faisons la sensibilisation direct avec différentes catégories et qu'il soit moins de 30 personnes par séance pour essayer que le message soit passé très bien. On organise aussi des formations de relais communautaires, des points focaux dans les communautés qui sont alertées comme polluées. Ça, c'est pour la pérennité des actions. Ils ont comme rôle la sensibilisation des leurs, mais aussi la remontée des informations en cas d'accident, etc. Nous organisons aussi la distribution des dépliants dans lesquels il y a les formes, les couleurs des engins, et on y écrit aussi le message de comportement positif adapté si on est en sens des engins explosifs. Nous faisons aussi le marquage des zones dangereuses avec des panneaux, des piquets pour montrer que la zone elle est dangereuse en attendant le temps de la dépollution. Comme vous avez dit, mettre sous vide la dépollution, le déminage coûte cher. Et donc, c'est un travail lent. Maintenant, nous sécurisons d'abord ces zones-là. Par rapport au nouveau projet, oui, c'est un projet salutaire, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas de projet. Et UNMAS, avec cela, ont tout fait avec les données que nous leur remontons pour accéder à ces fonds COICA. Et nous sommes impliqués. Et à l'écriture, on a passé le test, on a été évalué. Et donc, la SLAM, par exemple, va travailler dans l'Ituri, et précisément dans le territoire de Haru et de Dougou. Kiopadi va travailler dans le territoire de Beni. Badou va travailler au sud de Kivu. Et donc, c'est comme ça que nous le faisons. Et donc, les grandes activités réalisées dans la vie tantinique, c'est aussi les plaidoyers auprès des autorités tout à limite pour un monde exempté de mines. Nous avons aussi la destruction d'armes et de munitions à risque, le déminage direct, mais aussi l'assistance aux victimes par les premiers soins, par le référencement ou par les soins appropriés avec des prothèses osseuses pour faciliter aussi la mobilité, mais également les agères auprès des victimes. Nous pensons que, et nous lançons un appel aux autorités congolaises, que ce secteur doit une attention particulière, et nous demandons aux autres partenaires humanitaires et pays amis à travers les ambassades en RDC de venir en aide pour appuyer l'action anti-mine, car toutes les fois qu'il y a des mines, il y a des bombes, il y a des engins explosifs improvisés, les populations paysannes agricoles ont des espaces réduits de travail, des accidents mortels et les blessures sont signalés, il y a restriction des mouvements sur les routes et sentiers, il y a le traumatisme de la population, mais également la difficulté d'accès des humanitaires vers les populations. En cette période où les provinces de l'Ituri, les provinces du Nord Kivu et une bonne partie de Sud Kivu comprennent beaucoup de déplacés qui ont besoin de l'assistance.
Merci, vos appels ont été entendus. Soudi Kipoutou, Alimasi, expert en désarmement et sécurité internationale, également expert en lutte contre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. Nous allons écouter avec vous le commentaire de cet auditeur de Tchikapa. Ensuite, vous allez donner votre avis.
François Okundilange, depuis Kassai à Tchikapaville. La République démocratique du Congo devrait disposer d'une institution préventive de haute qualité et de la nouvelle génération pour lutter contre toute mine dans les zones à problème de conflits de guerre et d'interdire l'accès à la population dans ces zones, trouver un mécanisme général pour un nouveau déplacement économique de la population des contrées, imposer l'accès rapide de nos phares d'été à Bounagana et le reste des zones concernées. Les visites sont d'importance capitale.
Soudi Kimputu Alimasi.
Oui, j'ai suivi François. Il a entièrement raison parce que la première responsabilité en matière de lutte antimine appartient à l'État. Et pour la République démocratique du Congo, c'est le gouvernement congolais avec tous les organes, les services du secteur qui devaient en principe faire ce travail-là. Mais la réalité est que le budget de l'État ne prévoit rien en ce qui concerne les opérations de lutte anti-mine. Sur le plan opérationnel, les chiffres, il est zéro. Et voilà pourquoi on a recouru à des dispositions conventionnelles.
Soudi Kimputu, quel est l'état de vos rapports, vous les experts, et les services de l'État censés s'occuper de ce type de problème?
Voilà pourquoi je voulais expliquer maintenant la répartition de rôles. Parce qu'en cette matière, la Convention donne la possibilité maintenant à l'État, en cas d'impossibilité de faire face à cette question, d'organiser juste la coordination et de répartir les tâches. Et en République démocratique du Congo, non seulement il y a une loi, il y a des normes qui organisent la lutte antimine et qui permettent à ce que, à côté de l'État, ça veut dire que l'État peut avoir un service de déminage, mais ces services de déminage doivent travailler en symbiose avec les privés.
Mais vous n'avez pas fait mention des financements. Les tâches sont partagées, mais les financements, le budget pour être opérationnel viennent de qui?
En fait, je l'ai dit, l'État a l'obligation non seulement de mettre en place les services opérationnels, mais aussi de financer les opérations. C'est sa responsabilité première. Mais lorsque, comme il en est le cas pour la République démocratique du Congo, dans le budget, sur le plan opérationnel en matière de minage, le chiffre est zéro. Et maintenant, on fait recours à une disposition conventionnelle qui permet maintenant à l'État congolais de travailler avec les bailleurs de fonds et les partenaires opérationnels.
Le chiffre est zéro, nous l'avons entendu, hein, c'est pas que nous ne l'avons pas entendu, mais pourquoi l'État, justement, qui est obligé de s'occuper et de financer la vie de la nation de manière générale, hein, ça fait partie d'un aspect de la vie de la nation, pourquoi y aurait-il le budget pour l'école, pour l'enseignement, pour la santé, pour l'armée, pour le salaire des gens, et il n'y aurait pas de budget du tout pour s'occuper d'un danger imminent qui peut même s'abattre sur les acteurs les plus importants de l'État?
Très bien. Je pense qu'il y a une question de priorité. Apparemment, dans notre pays, la lutte anti-mine ne fait pas encore partie des priorités du gouvernement congolais. Ce qui fait que, malgré le projet de budget qui peut être préparé en spécifiant les activités à mener et en prouvant, en montrant noir sur blanc l'existence d'une croissance des victimes, alors encore que nous sommes dans la période des conflits armés, vous allez voir même les programmes DDR-RCC, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, on n'a pas fait allusion à la lutte anti-mine. Or, on ne peut pas faire du désarmement dans une zone où il y a des combats chaque jour, mais on oublie un secteur important, comme celui de la lutte anti-mine. Quand on a, par exemple, désarmé les ex-combattants, les zones qui ont fait l'objet des conflits, même les zones où ils avaient le stockage de leurs armes et munitions, ça doit être inspecté par les experts en déminage, avant que la population occupe des villages qu'eux ont occupés avant. Il faut que les experts en déminage passent. Mais tous les programmes de la RDC, malgré, vous avez suivi, Marion a parlé de plaidoyer qui est fait au niveau du gouvernement, mais il est clair que notre gouvernement ne met pas la lutte anti-mine
comme priorité.
Voilà, voilà, et c'est pour ça que...
Le pays est donc à la merci des bonnes volontés, et ces bonnes volontés peuvent cesser à tout moment. Merci Soudi Kimputu Alimasi. Peter Bokanga, chef de projet de l'ONG Bureau des Actions de Développement et des Urgences Badou, en sigle basé à Bukavu, au sud Kivu. Nous allons vous faire écouter aussi cet auditeur, Jonas, qui nous appelle de la même province, où vous avez l'habitude de mener vos actions, la province du Sud Kivu.
Jonas Bouendoa Théophile, Sud Kivu, ville de Bukavu. J'ai constaté que pendant la guerre, il y a juste installation des engins explosifs et durant le déplacement des guerriers rebelles M23, c'est un déplacement forcé suite à la défensive de l'armée loyaliste ou la FARDC. Il y a juste oubli de certains engins, c'est tout à fait normal. Malheureusement, le peuple reste la victime des conséquences de cette guerre à répétition à l'est de la République. Nous prions qu'il y ait des études faites par le service technique en matière avant l'installation des citoyens congolais dans leurs milieux respectifs.
Peter Bukanga, votre commentaire?
Je pense que ce qu'il a dit est réel. C'est à notre charge de mener plusieurs plaidoyers auprès de partenaires pour que la population soit vraiment bien édifiée sur la problématique de l'île Tantumine, parce que sans la sensibilisation, la population peut tomber dans des risques graves et ça peut même causer et ça cause toujours de morts. C'est pourquoi nous interpellons aussi la conscience de notre gouvernement de nous venir en aide, surtout le CESLAM, qui est le partenaire direct des acteurs de la lutte antimine. Donc c'est le gouvernement qui est le premier responsable de nous doter du moyen pour que nous puissions faire des préventions auprès de la population qui souffre. Donc ce qu'il a dit, M. Jonas, c'est vraiment fondé. Je pense que nous allons mener toujours des plaidoyers auprès de différents bailleurs pour qu'il y ait des activités auprès de la communauté affectée par les crises.
Merci Peter Bukanga, chef de projet de l'ONG Bureau des Actions de Développement et des Urgences, Badou en sigle, basé à Bukavu au Sud Kivu. Dialogue entre Congolais de ce soir a éclairé la problématique des mines et d'engins explosifs en République démocratique du Congo. Les populations restent donc toujours en danger dans les provinces où les engins explosifs sont encore en activité et peuvent causer dégâts à tout moment. Quel message vous pouvez adresser à l'endroit de toutes ces populations de la RDC, des zones affectées par les mines encore dangereuses?
Oui, le message que je peux apporter auprès de la population de la République démocratique du Congo, en particulier les Sud Kivu, c'est de rester plus prudent, vigilant, de ne pas ramasser tout objet qui ressemble aux effets militaires, de rester vraiment attentif, parce que aujourd'hui nous avons la problématique des engins explosifs improvisés. Donc nous demandons toujours auprès de la population de rester vigilant. Nous pouvons aussi également faire une large diffusion auprès de bailleurs de fonds, parce que nous avons un bailleur qui nous appuie régulièrement, c'est une masse. Donc nous sollicitons toujours auprès du gouvernement d'emboîter le pas par rapport à ce que une masse accorde des subventions auprès des organisations membres de lutte antimine. Donc nous supplions aux acteurs de faire un bon travail pour qu'il n'y ait pas des accidents qui se répète de temps en temps. Au Sud Kivu, on a déjà enregistré plus de 4 à 5 morts et plus de 8 personnes blessées. Et jusqu'à présent, ces victimes ne sont pas toujours assistées. C'est pourquoi nous demandons toujours auprès de l'UNMAS de pouvoir penser à ces victimes qui souffrent jusqu'à présent.
Peter Bukanga, merci. Vous avez déjà lancé votre appel tout à l'heure. Soudi Kimputu Alimasi, expert en désarmement et sécurité internationale, également expert en lutte contre les mines antipersonnelles et les raids explosifs de guerre. Tout à l'heure, vous avez dit que le gouvernement, malheureusement, n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut. Qu'est-ce que vous allez continuer de faire pour que finalement le gouvernement, à un moment ou à un autre, se rende compte que le danger est important et qu'il faut intervenir et que les moyens puissent aussi suivre pour des résultats efficaces?
Il y a un pilier important de la lutte anti-mine qui est le cinquième, qui s'appelle les plaidoyers. C'est grâce à ces plaidoyers, et là je parle vraiment comme précurseur de la coordination de la lutte anti-mine en RDC, nous avons réussi à mener ces gouvernements à faire adopter une loi sur la lutte anti-mine en RDC. Nous avons poussé la RDC à ratifier la convention d'Ottawa. Nous l'avons poussé à signer. Nous le pousserons aussi, et là, nous avons l'habitude de le faire, en synergie avec toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le secteur, à pousser le gouvernement à commencer à mettre dans son budget les budgets des opérations. Les budgets des opérations, c'est ce qu'on appelle, ce que les communs des mortels appellent les déminages. Et nous savons faire la différence entre tout ce qui est déminage, dépollution, éducation au risque, ainsi de suite, pour que cette responsabilité première du gouvernement en matière de financement de la lutte anti-mine, encore qu'on nous dit que le budget est devenu beaucoup plus important, et nous avons des problèmes sécuritaires sur toute la colonne est de notre pays. Et aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion pour alerter l'ensemble de la population de la RDC sur cette nouvelle contamination qui est les engins explosifs improvisés. Il y a beaucoup de soupçons déjà dans les grandes villes de l'Ouest, particulièrement à Kinshasa aussi. Et donc, il y a nécessité à ce que les populations congolaises soient informées sur la question de la lutte anti-mine et qu'ils soient mis au courant du danger que ces engins sont en train de procurer, notamment en regardant dans les villages, dans les villes, les personnes qui viennent acheter facilement beaucoup de piles, il y a un certain nombre d'équipements qui sont vendus de manière ordinaire, mais qui servent aujourd'hui à fabriquer des mines artisanales, des bombes artisanales, ce qu'on appelle communément des engins explosifs improvisés au niveau des terrains à risque.
Merci Soudi Kimputu. Marion Gavo-Kambale, coordonnateur national de la synergie de lutte anti-mine et bombes SILAM ASBEL en sigle, basée à Goma dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour amener le gouvernement qui finance pas comme il faut le secteur anti-mine en RDC puisse le faire, et en attendant que peut-être des financements puissent venir, que ce soit du gouvernement ou d'autres partenaires, quel message vous pouvez lancer au niveau des populations?
D'abord, je dis que le gouvernement doit prendre cette responsabilité en matière de la protection des civils dans les zones combat ou dans les zones de retour, en appuyant ce secteur de lutte anti-mine. Mais également, former plusieurs équipes médicales, ça veut dire les équipes peuvent faire l'éducation au risque, la neutralisation, mais aussi le déminage, par les ONG nationales, parce que les internationales, ils passent quand il n'y a pas de financement, les nationales restent et travaillent aux côtés des populations, et ça va faciliter une réponse immédiate en cas de pollution. Puisque c'est la sensibilisation à tous les niveaux, mais aussi la sensibilisation et la formation des unités de la police, de la sécurité, et de l'armée sur la gestion d'armes et de munitions. À côté de ça, il faut parler aussi de la gestion des frontières au niveau national et territorial sur la circulation d'armes illicites et de munitions. À toute la population, nous disons ceci. Les engins explosifs tubes ressemblent aux objets que nous utilisons. Par exemple, une grenade type chinoise ressemble à un marteau. Et ça fait des confusions. Nous disons, si vous trouvez des engins semblables aux effets militaires, ne les touchez pas. Ne jetez rien de, même de faible poids. Allez immédiatement informer les autorités, la police, l'armée, les chefs du village, des quartiers, pour que nous puissions directement venir enquêter et si possible faire le déminage sur place.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Dieu donné Nyangasa wa Nyangasa et Guimaté m'ont aidé à la préparer. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.